Alors, dans la continuité, et donc la présentation de Philippe Bay nous incite justement à réfléchir, puisqu'il a posé quand même un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir automatiquement lorsque l'on va aborder, à partir de maintenant, l'aspect plus ethnographique, si vous voulez, ou ethno-archéologique. Donc, il a posé des questions essentielles qui concernent les argiles, l'organisation des ateliers, la diffusion de la production. Et là, je vais mon propos est de poser justement, de continuer à poser des questions, je dirais plus en fait à partir de l'ethnographie, mais qui va rejaillir évidemment sur nos études d'atelier, en sachant que pour l'Égypte, c'est un champ riche, encore accessible en ce qui concerne l'ethnographie, puisqu'il reste encore des ateliers très importants, et que dans les années 70-80, il y a eu des travaux majeurs qui se sont intéressés aux ateliers. Alors là, j'ai commencé juste pour petit rappel, montrer une planche de l'expédition d'Égypte dont a parlé Séverine, donc je ne vais pas revenir dessus. Et alors, comme je ne sais pas... Il faut que j'utilise les flèches. Ah bon, d'accord. Ok. Très bien, merci. Suivant. Alors, les flèches. C'est celle-là, ces flèches-là?
Oui.
Ok. Et je voudrais commencer mon propos en rappelant une phrase de... Enfin, disons, un concept énoncé par Daniel de Montmolin, frère de Thésée, qui a participé, qui a fait l'introduction au livre de Nessie Menein, sur les ateliers d'Alcasre, dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour lui, l'ethnographie, c'est une archéologie vivante, donc c'est un peu dans cet esprit-là, mais en ayant évidemment toujours des réserves et des limites à proposer, que je vais montrer ce... Alors, ces travaux récents, enfin, ces travaux des années 70-80, il y a une partie française qui est importante, qui s'est fait, entre autres, dont les publications ont été reçues et imprimées à l'Institut français d'archéologie orientale. Donc je signale le livre de Philippe Brissot en premier lieu. Le deuxième titre important pour nous, c'est Jean-Claude Golvin. C'est le père de Jean-Claude Golvin. J'ai oublié son nom. Et ensuite, Nessie Menein. Et puis en même temps, alors ce sont ces gens qui ont travaillé sur des ateliers qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui sont encore accessibles. Et puis en même temps, il y a eu une équipe, on va dire, anglo-américaine, ou des équipes anglo-américaines qui se sont intéressées à la question des argiles et qui parfois sont allées un peu plus loin en proposant des études physico-chimiques. C'est le cas entre autres de Matson et puis surtout de Tobias Esser. En fait, ce sont pas des, c'est pas une bibliographie très connue, en tout cas des archéologues français, mais en étudiant, en faisant des analyses ici par activation neutronique, ils se sont posés un certain nombre de questions et l'observation des ateliers modernes leur a permis de faire des propositions, entre autres, je vais en reparler dans deux minutes, sur la question des mélanges d'argile. Alors mon propos va se donc développer en trois points. Je vous montre comme image de toile de fond ces ateliers anciens de Fustat qui sont en voie de disparition. Ça c'est le périmètre ancien si vous voulez. Celui qui s'est développé autour du site fouillé par Roland-Pierre Guéraud à la suite de fouilles, entre autres des fouilles américaines de George Scanlon. Près d'un ancien lac qui est en voie de... Et puis de tannerie, donc c'est quand même une zone tout à fait industrielle. Et donc ce sont les ateliers anciens avec des systèmes de voûtes que l'on rencontre très peu en Égypte, en dehors du cas de Fustat. Et puis à côté, j'ai montré un four de ballast, voilà, juste pour vous donner un peu une idée de ce qui peut exister. Alors, premier point, apport et questionnement concernant les argiles et les pâtes céramiques. Nous avons été aidés alors que se mettait en place ce qu'on appelait le système de Vienne, qui était un groupe d'égyptologues et surtout de céramologues internationaux qui ont travaillé à mettre en place une définition, un protocole, si vous voulez, de description des pâtes céramiques, des argiles. Et conjointement, en même temps, un chercheur comme Philippe Brissot s'est intéressé aux ateliers de la région de Louxor et a proposé, ayant vu le matériel, a proposé, on va dire, deux grands groupes, hein, la Terre des Champs, celle qui fait partie, ben, vraiment le limon du Nil, c'est-à-dire celui qui est au bord du fleuve, donc avec deux types, enfin Hassoud et puis Tin, c'est deux noms, disons, deux noms arabes qui correspondent à deux types d'argile alluviale. Et puis ce qu'il appelle des marnes, qui sont donc, correspondent nous, à ce qu'on appelle des argiles calcaires, qui sont Tafl et Ib, qui correspondent généralement à deux, apparemment deux niveaux, deux types d'extraction géologique distinctes. Et puis, depuis, et ça c'est l'apport de Maurice Picon, grâce aux analyses physico-chimiques qui a été engagée de manière officieuse, si je puis dire, puisqu'on n'avait pas le droit de transporter les éléments, c'est de découvrir ce groupe des argiles réfractaires que l'on appelle les Aswalis, parce qu'on les trouve dans la région d'Assouan, mais que ces Aswalis, elles avaient déjà été identifiées par, j'ai oublié son nom, un lettré arménien, je ne sais plus si c'est du 14e ou du 15e siècle, qui avait déjà identifié cette argile rose-rouge qu'il avait appelée justement, lui, Aswali. Donc ça, si on va dans les sources arabes, il écrivait en arabe, bien sûr, hein, c'est une période où l'arabe est la langue, il avait déjà identifié cette argile et il avait d'ailleurs repéré que cette argile était déjà transportée du sud de l'Égypte vers le nord. Donc, je vous montre ici un exemple de marne de l'atelier de Ballas. Donc, les marnes sont, enfin, les fragments de marne sont à droite, et puis vous avez la zone de préparation de l'argile dans des bassins très 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 grossièrement façonnés. Donc, c'est vrai que, on va dire, la connaissance, disons l'approche, le développement des études d'ethnographie, ça nous a aidé nous pour les études céramologiques de l'Antiquité et de la période médiévale. Alors les analyses par activation neutronique, elles ont permis de découvrir dans les années 70 des types d'argile, des compositions chimiques qui étaient un peu bizarres et qui laissaient entendre qu'il y avait certainement des mélanges d'argile. Et ça peut avoir une résonance sur nos propres études, puisque souvent on a du mal, enfin il arrive parfois que l'on ait du mal macroscopiquement à définir des argiles ou des pâtes qui n'appartiennent pas de manière claire, soit aux argiles dites alluviales ou siliceuses, ou aux argiles calcaires. Alors, ça peut être effectivement des méthodes de malaxage, de préparation d'argile qui se sont pratiquées dans l'Antiquité, mais comme vous le savez, ou au Moyen-Âge, ou à la période médiévale, mais comme vous le savez, on peut très difficilement, même quand même par l'analyse physico-chimique, par la fluorescence X, on a quand même parfois du mal à les distinguer. Mais ce sont des questions qui doivent rester ouvertes. Donc, des pratiques mal identifiées pour l'Égypte antique et médiévale. Alors, toujours dans mon premier point, il faut savoir que, et ça, on est aidé effectivement par une pratique actuelle qui est celle du transfert des argiles d'Assouan, donc ces fameuses kaolinites. Aujourd'hui encore, on va chercher dans des galeries qui sont encore, que j'ai vu il y a maintenant presque 30 ans, au nord d'Assouan, à 10 km, un site qui s'appelle Abouriche. Et dedans, il y a des galeries et avec des petits camions, des petits wagonnets qui vont chercher les argiles kaolinites, les kaolinites d'Assouan, et qui les transportent ensuite par le Nil, qui est vraiment le moyen de communication évidemment essentiel depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, par des grandes barges, des grands bateaux qui vont jusqu'à Foustat. Et là, à Foustat, une partie des ateliers et traditionnel et moderne, ce qu'on va appeler le New Foustat, qui est donc un nouveau secteur qui s'est développé près des ateliers anciens, ont l'habitude de fabriquer des céramiques. Alors souvent, c'est des céramiques décoratives. Alors ça peut être des pieds de lampe ajourés avec des décors incisés. Ça peut être des poupées pour le mouled avec des glaçures. Donc c'est important parce que ce groupe d'argile, justement, est souvent utilisé avec des glaçures. Donc, on va faire un renvoi aux recherches et aux travaux de Roland-Pierre Guéraud, qui est donc un des grands spécialistes de la céramique islamique, et qui, selon lequel, les premières glaçures, que vous avez ici un exemple d'ailleurs qui vient du site de Bouteau, qu'on a trouvé un peu fortuitement, on était très contents de les trouver, ces glaçures sont appliquées sur des pâtes d'Assouan, donc ces kaolinites, avec des glaçures plombifères. Et ce sont les premières glaçures disons, du monde islamique, arabo-islamique, qui se développe en Égypte à partir sans doute du IXe siècle. Et dans certains cas même, ce sont sur des sigillés dites, des formes de sigillés, hein, quand je dis des imitations de sigillés tardives, que ces premières glaçures sont appliquées. On en a des exemples à Alexandrie et également on en a quelques exemples à Fustat. Donc, pour Guéraud, il n'est pas possible, pour lui techniquement, pour des raisons que je ne peux pas évoquer maintenant, parce que ça serait trop long, il n'est pas possible que Éléphantine, Assouan, ait produit ses premières glaçures. Donc pour lui, il y a eu transfert d'argile à Fustat, où il a des traces de toute façon d'atelier, au moins à partir du Xe ou du XIe siècle. Hein. Donc je signale qu'il va publier, d'ailleurs, sous presse à l'IFAO, un très gros volume, donc des céramiques d'époque fatimide, avec Lucie Valory. Donc voilà, là, c'est, je vous montre la fouille de Roland Guéraud, et puis donc ces glaçures plombifères. Hein, donc je vous remontre voilà, la problématique, c'est des transferts pour l'interrogation d'argile dès l'Antiquité et la période médiévale, ça n'est pas du tout impossible, au moins pour fabriquer ces premières glaçures découvertes à Fustat, entre autres, et à Alexandrie. Et je vous montre sur le côté droit deux exemples de cette céramique à pâte kaolinite d'époque byzantine. C'est-à-dire 6e, 7e siècle, en sachant qu'évidemment, on va poursuivre même la fabrication de pseudo-sigillés au-delà même du 7e siècle. On en trouve encore des formes apparentées qui s'inscrivent vraiment tout à fait dans les traditions de l'Antiquité tardive jusqu'au 8e siècle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les chalands transportent depuis, donc vous avez ici, vous voyez quand même une zone très, sur le plan très. Voilà, vous voyez que donc voilà la région d'Assouan où on trouve ces argiles. En fait, c'est tout, ça va jusqu'à Naga et la Hagar. Hein, donc c'est toute cette zone dans des niveaux stratifiés qu'on trouve ces kaolinites. Et donc, comme je le disais, c'est Maurice Picon qui a découvert chimiquement la caractérisation chimique de ces argiles à la suite des premières analyses que nous avons faites à partir du matériel des Kélia, qui est un site qui se trouve dans le nord, où il y avait effectivement ces sigillés à pâte rose. Et depuis, évidemment, ça a complètement modifié le panorama et la connaissance des argiles de l'Antiquité. Une deuxième carte. Montre une vue générale. Voilà. Alors, il y a aussi un point important qu'il faut peut-être se poser, enfin, une question importante à se poser, c'est la question des continuités techniques. Là, je ne suis pas sûre que l'on puisse répondre par la disons de manière positive ou affirmative, c'est y a-t-il des continuités techniques en ce qui concerne les cuissons à réduction ? Alors l'Égypte, comme partout dans le monde antique, a évidemment produit en mode A, en mode B. Le mode C, on en reparlera tout à l'heure, Guy en dira un mot, puisque a priori à Buto, on a une sorte de vague imitation du mode C à Buto dans les ateliers du Nord. Alors, en ce qui concerne la cuisson-réduction, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très gros atelier, mais il n'est pas le seul, mais surtout l'atelier de Grace ou Ashmun Grace, qui est situé dans la Menoufeya, au sud-ouest du Delta, dans lesquels on fait des pots à foule. C'est des pots pour. On les utilise de moins en moins, mais c'est des pots qui sont cuits en réduction. Et de fait, une partie de l'atelier d'Ashmun Grace, qui est très grand, qui se déploie sur tout un village, a effectivement fabriqué des pots donc de couleur noire. Et effectivement, on pourrait se poser la question de la continuité de ces techniques en mode B, parce que le delta, justement, dans l'Antiquité, à l'époque ptolémaïque, donc entre 300 et 1er siècle, puisque là, cette technique, a priori, on ne va plus trouver de céramique noire, ou disons cuite en réduction, le delta, effectivement, possède plusieurs ateliers, Tel Atrib, Buto, etc., et certainement d'autres ateliers. On peut dire que Buto n'a pas l'apanage de cette seule production de céramique à noirâtre. Alors, deuxième point, l'exemple de l'atelier d'El Kassr. Là, je vais partir, je dirais, d'un atelier donc, qui a été publié par Nissim Enayn et qui a été publié par Nissim Enayn. Voilà le site d'El Kassr qui est situé donc, dans l'oasis de Darla, dans la partie occidentale. On n'est pas très loin de la route qui mène vers l'oasis de Farafra, donc dans tout le chapelet d'oasis qui se déploie à l'ouest du désert, enfin disons du plateau, hein, puisque vous avez ici le plateau calcaire. Et Castres, eh bien, c'est un village qui est daté au moins d'occupation au moins dès le 10e, 11e siècle. Et là, on va avoir un atelier très important, au moins, disons, important par l'originalité de ces fabrications, de ces techniques. Et je vais vous parler aussi, par comparaison, d'un site de l'Ancien Empire égyptien, vers entre 2300, 2500 avant Jésus-Christ, 2300, 2000 avant Jésus-Christ, qui a aussi une occupation au deuxième millénaire. Et il faut savoir donc que Maurice Picon a donc travaillé, est venu visiter le site à l'époque, et c'est lui qui a découvert d'ailleurs les ateliers de Potier. Il a vu en surface un certain nombre d'éléments et il a dit aux fouilleurs, à l'époque c'était l'équipe dirigée par Lisa Guidi, il y avait aussi Nicolas Grimal, et il leur a dit là attention, il y a des ateliers de Potier, et ensuite moi je suis venue travailler sur ces ateliers quand ils ont été fouillés par Georges Soukassian. Et Maurice Picon, donc vous voyez c'est un peu vraiment là encore en hommage à cet éminent chercheur, a fait le lien, justement, est allé voir, il connaissait l'atelier d'El Kassr, qu'étudiait Nessim Enayn, et il y a des éléments qui l'ont intéressé, et je vous donnerai quelques un ou deux points de conclusion qu'il a posé. Alors, voilà la couverture du livre, c'est un atelier qui va utiliser deux types d'argile, l'argile rouge et l'argile blanche. Alors, l'argile rouge, elle est prise dans le fond de la dépression, hein, c'est ce qu'appelait pour Picon, c'était des argiles, des argiles de dissolution, parce qu'il y a juste un niveau graisseux en dessous, et pour lui c'était des argiles, disons, des plus ou moins détritiques, qui sont d'ailleurs utilisées jusqu'à nos jours dans l'artisanat, et puis aussi pour la construction des maisons, quand on utilise pour faire de la brique. Donc on a cette argile rouge, et puis on a une argile blanche, là, qui n'est pas bien caractérisée chimiquement, apparemment, mais il y a quand même un faible pourcentage calcaire. Donc, cette argile blanche, et peut-être, parce qu'on sait, on l'a fait l'expertise pour l'Antiquité, pour le site de l'Ancien Empire, on a aussi quelques niveaux de type kaolinite, des argiles de type kaolinite, et ça pourrait appartenir à cette catégorie-là. Et on voit que le savoir-faire des ateliers potiers est intéressant. Donc ils vont chercher cette argile rouge qui constitue la majorité de la production, et ils vont ajouter des cendres. Alors l'ajout de cendres, ce n'est pas une technique spécifique uniquement à cet atelier. On les trouve aussi dans les ateliers de la région de Louxor. Je ne sais pas en revanche si dans la région de Ballas c'est la même chose. Elles ont deux propriétés, des propriétés mécaniques, c'est-à-dire qu'elles vont dégraisser une argile qui est un peu trop plastique. Et puis, elles vont également permettre, par une présence de sodium et de potassium importante, qui a été vérifiée là, chimiquement aussi par Maurice Picon, qui avait fait aussi des analyses de ces argiles utilisées par les ateliers d'El Kassr, donc qui ont une fonction également de faire d'abaisser le point de fusion. Bon, comme vous le savez, ce sont des cendres végétales de type sodique, hein, qui sont aussi utilisées dans l'artisanat du verre, à l'époque, évidemment, à l'époque romaine et à l'époque médiévale. Et là encore, les recherches conjointes qu'il a menées avec Daniel Foy et Marie-Dominique Nénard ont bien montré effectivement que ça permettait de faire abaisser le point de fusion à peu près de 1700 degrés à 1000 degrés, ce qui effectivement est assez important. Donc deuxième catégorie, l'argile blanche, que l'on trouve dans des niveaux du Jebel, à quelques kilomètres, à 6 kilomètres. Ça correspond à une minorité de la production, essentiellement les vases qui doivent avoir des parois poreuses. Et l'ajout de la silice permettrait d'augmenter la porosité de ces vases, donc qui sont constitués de gargoulettes et de zires qui sont des zires pour la consommation directe, hein, qui ne sont pas des zires de stockage, zires de consommation directe, c'est-à-dire dans lesquelles on va puiser pour avoir de l'eau fraîche. Donc je vous montre une image de tamisage des cendres dans l'atelier. Et il y a eu donc une mise en perspective avec la céramique du site de Balat, qui est donc le site de l'Ancien Empire, atelier, donc il y a des ateliers, une nécropole avec du matériel également céramique qui a été aussi analysé chimiquement, et également la ville, disons, qui se déploie à côté des ateliers. Et voilà donc le type, je dirais, principal, on va dire un des groupes, le groupe principal, c'est celui-ci et celui-là, avec des argiles, justement, ces argiles du fond de la dépression, certainement. Et là, c'est une importation, donc je la montre parce que c'est une image globale, une importation. Et là, ce sont des catégories un peu plus grossières, avec souvent des dégraissants végétaux ajoutés. Alors, quand on a fait notre étude, donc moi, c'est moi qui ai publié ce matériel avec Maurice Picon pour la partie chimique, analyse enfin macroscopique et chimique. Donc on a distingué deux groupes, donc un groupe sans dégraissants végétaux, donc qui sont les céramiques entre guillemets fines, supports de vase, fragments de coupe, et puis ce groupe à dégraissant végétal. Et en faisant les analyses physico-chimiques, il s'est rendu compte, alors voilà la publication, qui a été scindée en deux parties, hein, une partie archéologique pour ceci, et puis la partie céramologique Ballet-Picon. Il a montré par les analyses qu'il y avait pour le groupe des céramiques sans dégraissant ajouté, vous voyez, des pourcentages de sodium et de potassium qui étaient relativement élevés, un peu plus élevés que pour les autres catégories. Et justement, l'observation pour lui de ces pratiques actuelles dans l'atelier d'Elkas lui a permis de supposer, alors il n'y a pas de preuve absolue, qu'il y avait peut-être des ajouts de cendres dans les céramiques du premier groupe et qui expliquaient ce taux relativement élevé de sodium et de potassium. Un autre aspect aussi que l'on peut, ce n'est pas uniquement spécifique à l'atelier d'Elkas, mais que l'on va trouver aussi dans tous les ateliers modernes, c'est l'utilisation des cordes, des cordelettes, pour maintenir des formes, ce sont des formes de grande taille, comme ici ces jarres, ça peut être ce qu'on appelle aussi les zires, et effectivement, vous voyez ces cordes qui maintiennent les parois, qui évitent l'affaissement au moment du tournage ou aussi au moment du séchage. Et là, on ne le voit pas très bien, c'est un zir byzantin, donc ce qu'on appelait des zirs coptes, mais enfin, il vaut mieux dire byzantin, c'est mieux, où on voit des traces, alors ici, ce n'est pas très visible, des traces de cordes. Et alors, souvent, les collègues qui nous ont précédés, ils voyaient des traces de décor. Pour eux, c'était un décor à la cordelette. Donc, ce n'est pas du tout un décor à la cordelette, hein, ce sont des contraintes techniques. Qui permettent justement au moment du façonnage eh bien de maintenir le vase en forme. On voit ici, on voit pas trop mal ici les cordelettes. Hein, donc, et bien sûr, là, le décor peint, ça c'est véritablement un décor, évidemment. La question de la morphologie des fonctions aussi est aussi un élément qui permet de faire un va-et-vient entre l'ethnographie et l'archéologie. Je prends l'exemple des fameuses cigales, les tonnelets-barillets, qui sont produits dans les deux oasis de Darla et de Rarga, mais également, on en trouve produites encore aujourd'hui dans l'atelier d'Ashmun Grace, donc ce n'est pas uniquement une spécificité oasienne. Néanmoins, il est vrai que, en ce qui concerne la production de l'Antiquité et du début de l'Antiquité jusqu'à l'Antiquité tardive, jusqu'à la période byzantine, on a une production bien reconnue dans les deux oasis de Darla et de Rarga. Alors évidemment, nous sommes bien sûr privés, nous les archéologues, on n'a pas toujours les textes qui correspondent à l'emploi de ces jarres, hein, de ces tonnelets. Vous avez un exemple de l'Antiquité à gauche et puis deux exemples de cigas, ce qu'on appelle donc les cigas, les tonnelets barillets de l'atelier actuel d'Elkas. Nous n'avons pas les moyens de connaître exactement les fonctions, les contenants de ces grandes formes. Alors, bien sûr, on trouve parfois des traces de poissage, donc on peut supposer que ce sont des récipients vinaires, puisqu'on ne trouve aucune production d'amphores dans ces deux oasis, mais l'étude qu'a menée Nessim Enayn nous permet d'avoir une diversification plus importante. C'est-à-dire que ces récipients, sont utilisés pour puiser l'eau dans les canaux. Vous mettez la jarre, je n'ai pas de photo, en perpendiculairement au sens du courant. Donc il a observé les gens qui les utilisaient. Donc les femmes se baissent, c'est souvent les femmes qui vont chercher de l'eau, se baissent et l'eau arrive dans le goulot et se répartit très bien dans la forme. Ça peut servir aussi à la conservation du fromage et ça peut servir aussi à barater le beurre, hein, donc à partir du lait. Et là, je fais appel à un autre ouvrage de Nessim Hennein qui s'appelle « Poterie, proverbe d'Égypte » et on voit une femme qui est en train de barater le beurre. Elle est en train de faire un mouvement de va-et-vient du bas vers le haut, enfin, d'un côté de l'autre. Et cette siga, d'ailleurs, elle a une extrémité, mais on ne le voit pas bien ici, une extrémité très légèrement aplatie. Ça permet de savoir, justement, c'était un peu l'élément qui lui servait de préhension, disons, de maintenir un petit peu en équilibre contre elle la siga. Donc, ce sont des fonctions, on peut dire, multiples, qui nous permettent, nous, à nous, archéologues, céramologues, d'envisager d'autres usages en dehors du vin, par exemple. On peut de toute façon imaginer qu'on y mettait de l'huile, on y mettait des dattes, on y mettait toute une série de choses, et elles pouvaient aussi être utilisées. Pourquoi pas, pour l'époque, barater le beurre et pourquoi pas aller chercher l'eau dans les canaux. Donc, voilà, je vous montre un petit peu le faciès aussi. On trouve cette tendance un peu à la surcuisson, me semble-t-il, pour certains d'entre eux. Vous avez ici des fragments de cigares sur le côté gauche. Vous avez des pots de cuisson ou des jarres. Les fonctions ne sont pas toujours très bien déterminées dans ce type de céramique. Et je me suis posé la question, Yaël pourra en témoigner, je crois qu'on était ensemble ce jour-là, dans l'autre oasis à Elder, où on a accompagné des géomorphologues qui essayaient de repérer toute l'évolution climatologique et géomorphologique de ce site autour de la forteresse d'Elder. On a effectivement des canaux qui sont assez bien conservés. Vous en avez donc deux ici. Vous voyez la ligne de canaux. Vous avez une ligne de canal ici. Et puis vous en avez surtout une assez bien conservée, bordée de pierres qui devaient donc consolider les côtés de ces canaux. Et puisque tout le parcellaire qui est autour devait être irrigué, on a encore de toute façon des traces de champs. Ça a été aussi exploité récemment, donc il faut faire attention. Mais en gros, toute cette zone, et puis on a retrouvé quand même un certain nombre de tessons avec des concentrations particulières, donc on sait qu'il y avait une occupation de toute façon. Et on a trouvé, je me suis posé la question, je ne vais pas dire que j'ai raison, mais on s'est posé la question parce qu'on trouve beaucoup de cigas de chaque côté de ces murets qui définissent ces canaux. Je me suis quand même posé la question si la présence assez importante de ces cigas n'était pas justement liée au puisement de l'eau, à moins que, évidemment, ces tessons aient servi à consolider, pourquoi pas, les petits murets de fortune qui sont... la question est ouverte, mais ça m'a semblé être une indication possible. Et justement, c'est le fait qu'on a ces exemples de morphologie d'usage bien attestés aujourd'hui encore dans l'oasis de Darla qui m'a fait penser à cette hypothèse. Alors, les organisations spatiales, c'est un élément important dans des ateliers, pour nous, qui est toujours tout à fait enrichissant quand on a des ateliers modernes. Ici, l'atelier de Castres se répartit avec donc une salle, une pièce qui va servir au tournage et également en partie un premier séchage à l'intérieur. Vous avez des arbres, c'est très important les arbres parce que là, vous allez aussi organiser, vous allez placer et on va comme ça bénéficier de l'ombre de ces acacias du moment du séchage. Donc on va placer un certain nombre de récipients à proximité des arbres. Et puis vous avez les fours dont je vais dire un mot dans un instant. Car effectivement, archéologiquement parlant, si on fouille, nous on a fouillé des fours à bouteaux, eh bien il faut bien vous savoir qu'on n'a aucune installation annexe, en tout cas, pour l'époque gréco-romaine, l'époque romaine en tout cas, nous n'avons trouvé que des fours, nous n'avons jamais trouvé les installations annexes, elles devaient bien exister, on a fait pourtant des décapages tout autour, mais on n'a pas trouvé d'éléments, donc c'est quand même important d'avoir ces exemples, mais c'est un exemple, ça n'est pas l'exemple type, bien sûr, d'un atelier actuel. Alors, je voudrais aussi mettre en évidence un élément important, c'est la notion de la religiosité, la croyance des Poitiers, parce qu'ici, vous avez au centre de cet atelier une petite coupole, c'est une sorte d'espace commémoratif d'un saint, dont je ne vais pas vous dire le nom, mais pour synthétiquement, c'est Cheikh Kennaoui, Kenaoui, c'est Kena, c'est une ville de Haute-Égypte qui a une tradition potière affirmée depuis le Moyen-Âge. Et effectivement, d'ailleurs, c'est une des résultats de l'enquête de Philippe Brissot, c'est de montrer qu'il y a une tradition et une relation très étroite entre les ateliers de Kena, qui ont un peu diffusé autour d'eux jusqu'à Ballas, et puis ce saint fondateur qui était un homme qui venait du Maghreb, et on lui attribue un certain nombre de miracles, en tout cas d'actions qui ont permis justement aux gens de Kena de développer leur activité. Il leur a indiqué un endroit où aller chercher de l'argile, etc. Et c'est assez amusant de voir qu'à quasiment 400 km, eh bien, c'est ce même cheikh de Kena qui est honoré par les gens du coin. Et moi, je trouve que ça, c'est un domaine de recherche qui pourrait être aussi intéressant à développer. C'est la religiosité, les croyances des potiers qui se mettent sous le patronage de ces saints. Et en particulier, il est honoré au mois de Shaaban, qui est le mois qui précède le mois du Ramadan. Et tant à Kena, mais aussi ici à Castres, eh bien, il y a des fêtes vraiment qui sont organisées en l'honneur de ce saint. Voilà, vous avez la Kouba en couleur avec un des employés de la fabrique là, qui est en train de décorer des gargoulettes. Donc le plan de l'espace de travail, ici, alors ce qu'on trouve donc très rarement archéologiquement parlant, mais ce qu'on aimerait bien découvrir, c'est évidemment toute une série d'installations, pardon. On voit pas très, voilà. Voilà, ce sont les tours, donc il y en a plus d'une dizaine, les tours. Dans une pièce qui est bien aérée, avec une ventilation qui permet d'avoir un espace toujours très frais, et puis qui permet donc les tout premiers séchages. Alors il y a une aire qui est avec, c'est un peu du sol de, qui est toujours un peu arrosé. Ça c'est pour certains types de peaux quand il s'agit. Alors là c'est surtout en été qu'on va utiliser cette aire. Et puis il y en a une autre qui est parsemée de sable et là qui est plutôt utilisée l'été. Avec arrosage d'eau c'est l'été et le sable c'est plutôt pour l'été, l'hiver. Voilà. Donc bien, alors le séchage, je vous montre un autre exemple de séchage dans les gros ateliers de Ballas qui sont toujours très actifs, qui font déjà à eau. Donc là, vous voyez ici, c'est en plein soleil. J'imagine qu'on doit être pendant la période hivernale parce que, a priori, voilà. Et alors, on peut faire des correspondances avec l'atelier d'Ainassil dont je vous ai parlé tout à l'heure très rapidement. Cet atelier qui est situé à côté de la résidence palatiale qui va être fouillé un peu plus tard par Georges Soukiassian et qui va donc trouver un certain nombre d'installations, et notamment les archives de la ville, des chapelles commémoratives, des gouverneurs de l'oasis, etc. Donc à côté, on a, en dehors de l'enceinte, mais tout proche de l'enceinte de la ville, on a ces ateliers. Quatre phases ont été identifiées. Je vous montre un exemple de batterie de four qui appartiennent à un même, ici, voilà, à droite, qui appartient à la même période. On a trouvé également une pièce qui devait être certainement utilisée, alors peut-être pour la fabrication de la céramique, peut-être pour un premier séchage, avec ce pilier. Donc il faut imaginer des couvertures avec des branches de tamaris ou d'acacia, et puis après on peut mettre des roseaux. En tout cas, c'est comme ça que l'atelier d'El-Kassr est couvert. Hein, c'est l'atelier, la pièce que je vous ai montrée. Et puis on a aussi trouvé des fosses, enfin des bassins où on devait préparer l'argile. Donc vous voyez, on a petite, une correspondance, je dirais, entre l'atelier actuel et un petit peu l'atelier ancien. Et vous avez la restitution d'une des phases de l'atelier de l'Ancien Empire dans sa phase 2, parce qu'il y a des sous-phases. Et on a une restitution de cet ensemble qui est assez évidemment homogène puisque pratiquement, semble-t-il, tous les éléments sont réunis, bien que, on voit aussi la fosse ici, on voit restitution d'une fosse, des installations, donc soit pour la fabrication pour le premier séchage, et puis les fours de au moins deux types de dimensions, pour faire vite. Voilà. Alors, à Castres, on a des fours, évidemment. Alors, je vous montre la particularité de ces fours, qui est tout à fait intéressant, parce que là encore, Il faut penser que dans nos fours à nous, par exemple ceux de Boutot, on a dit ce sont des fours pour la partie P1, le secteur P1, ce sont des fours P5, ce sont des fours dits à tubulure qui font de la céramique fine rouge. Mais en fait, ces fours, ils peuvent être utilisés sans doute aussi pour d'autres, peut-être pour une cuisson en mode A, et pourquoi pas, dans certains cas, pour les fours de céramique commune qu'on a aussi trouvé à Boutot, pourquoi pas pour la fabrication de la chaux. Je dis cela parce qu'ici, c'est la spécificité de cet atelier, de ces fours. Il y a trois types de cuisson. Cuisson pour la céramique, alors c'est ce qui est le cas ici, montré ici, là. Cuisson pour la céramique, cuisson pour le calcaire, pour faire de la chaux, avec devant la petite voûte que vous voyez ici, une sorte d'organisation, on va dire, un peu hélicoïdale, d'amas de calcaire qui vont être placés devant. Et tout autour, on va avoir le chargement de céramique. Donc ça, c'est un mode de cuisson mixte. Et puis ici, on a des cas où on n'a que des fragments de calcaire qui sont mis. Donc on a trois types de chargement, si vous voulez. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça nous permet, nous, de comprendre les éléments. Je croyais en avoir une, j'ai dû l'oublier de la mettre. Je me semblais avoir une. Non, attends, tant pis. Oui, voilà. Regardez ici, vous avez les amas de calcaire au centre, là, et vous avez les céramiques tout autour. Donc là, c'est dans l'enfournement mixte, le chargement mixte. Voilà. Donc, effectivement, si on revient à Boutot, on a trouvé des fours de type classique, hein, qui ne sont sans doute pas des fours à tubulure, mais qui ont dû être utilisés dans un premier temps comme four à céramique. Et puis après, mais malheureusement, on n'a pas trouvé dans un cas la production correspondante, qui ont dû être nettoyés ou vidés, évidemment, des restes des dernières fournées ou autres, et ensuite qui vont être convertis en four à chaux, puisqu'on a des traces de chaux assez importantes. Je vais vite, hein, mais. De toute façon, voilà, on pourrait parler des heures de ces ateliers. Aussi, j'ai pu voir des choses un peu similaires, c'est toujours intéressant, en fin de cuisson, hein, opération de défournement, là, en ce moment. Donc, on a encore la bouche qui est bouchée, justement, avec des tessons, des céramiques, etc. Et à Boutot, on a trouvé un four qui était effectivement, la porte était bien colmatée. A priori, à Castres, c'est en fin de cuisson, qui démarre très lentement pour éviter évidemment des montées en température qui feraient claquer vite la céramique. On part de 120 degrés et puis ils vont à peu près jusqu'à 900 degrés quand même. C'est assez important. Voilà le four de Boutot retiré, le bouchon ayant été dégagé. Donc là, c'est dans un de ces fours où on pense qu'on a donc cette fabrication de pseudo-sigillés. Le combustible, alors évidemment, le combustible, là encore... L'actualité nous importe. Ici, ce sont les cannes à sucre qui sont utilisées dans le sud de l'Égypte. Dans le nord, on va utiliser des roseaux. Et là, on a des preuves de plantes aquatiques qui ont été trouvées dans nos cendres à Boutot. Et puis, à Casse, ce sont des fagots d'acacia, de tamaris qu'ils vont chercher ou de plantes qui poussent dans les zones basses de l'oasis, dans des zones un peu marécageuses. Et alors, l'inconvénient de ces plantes, c'est qu'elles sont chargées de sel et ça peut avoir des incidences négatives sur la cuisson des céramiques, dont de temps en temps, il y a une vitrification non voulue, non souhaitée, qui se produit. Dernier point, implantation et distribution, répartition et distribution des ateliers. Alors, ça, c'est évidemment une question importante. Vous avez vu le cas d'Elcas, vous avez vu que c'est un atelier collectif, c'est un atelier d'ailleurs collectif. Il y a 10 familles, ils ont chacun leur four. Il y a aussi un autre four qui est partagé par 2 familles, mais en général, donc si vous voulez, il y a un espace collectif qui est le même. Ils ont à peu près les mêmes modes d'acheminement de l'argile et des fagots, etc. Mais en termes de cuisson, ils sont distincts. Ils sont vraiment, c'est bien individualisé. Et puis il faut savoir aussi, et c'est intéressant aussi toujours, c'est que maintenant ça a dû changer, mais il y a 20 ans, 30 ans, ils échangeaient leur production en faisant du troc. Hein. Il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait pas de moyens de paiement en espèces, hein, et ils échangeaient avec les gens du village contre des produits alimentaires, etc. Mais c'était les gens de Rarga, de l'autre oasis, qui apportaient la monnaie, les monnaies sonnantes et trébuchantes, qui apportaient des éléments pour des pièces. de Monet. Donc, les implantations d'ateliers, eh bien, on ne peut pas en dire plus que ce que l'on voit ici sur cette carte géophysique, par exemple, avec l'exemple de Boutot pour l'Antiquité. Donc, c'est vrai qu'on a par endroit des sortes de batteries de four. C'était assez clair ici dans le premier ensemble qu'on va appeler un atelier, mais on n'est pas sûr du tout que ça soit un atelier. On n'a aucun élément sur l'aspect juridique, qui est propriétaire, etc. On n'a aucun élément. Après, il y avait aussi un autre groupement de fours pour la céramique commune. Donc là, on peut aussi supposer qu'il y a une certaine unité. Et puis alors, parfois, ben, on a vraiment des éléments tout à fait isolés, hein, qui sont c'est ceci. Donc là, il y a toute une réflexion encore à mener sur l'organisation de ces ateliers. La question du stockage à Boutot, par exemple, elle n'a pas été, on n'a pas du tout d'éléments de stockage, à une exception peu près, c'est à peu près une centaine de mètres au sud, des ateliers du secteur P1, où Anne Schmidt a fouillé ici ce secteur, avec une couche assez importante de flacons qui appartiennent à la production, et on pourrait imaginer que ce soit une sorte d'espace de stockage ou éventuellement un premier point, bon, on ne peut pas dire autre que stockage, parce qu'on ne peut pas parler de vente a priori, on n'a pas d'éléments de magasin, et justement sur les magasins, sur les boutiques dans lesquelles on vendait toutes ces productions de l'Antiquité, eh bien, il faut savoir que, je vais un peu trop vite hein, peut-être, mais il faut savoir qu'on a jusqu'à aujourd'hui des éléments qui sont finalement, on a des points de vente qui sont souvent placés au bord des routes, à des croisements de carrefours, et on peut dire qu'il n'y a pas vraiment dans l'Égypte traditionnelle, hein, je parle de l'Égypte évidemment des potiers d'aujourd'hui, des potiers traditionnels, on n'a pas vraiment de structuration des points de vente, hein, c'est vraiment quelque chose qui se met à l'extérieur, près des routes. Donc là je montre un exemple de zone de stockage avant la distribution, c'est le cas de Fustat. Il faut bien sûr penser au transport, mais je vais revenir sur le transport. Voilà, les points de vente. Alors les points de vente, exemple de Fustat, des ateliers traditionnels, c'est donc à peu près à 200-300 mètres de la zone des ateliers, des fours. Donc vous voyez, donc on est vraiment au bord de la route, ce sont des étals tout à fait... tout à fait éphémère, sans véritablement de construction en dur. Je prends un autre exemple, c'est des produits d'un atelier de la région de Thèbes, ici on a une première étape dans la distribution à Louxor, là aussi on est à l'extérieur, au bord d'une des rues principales de la ville. Également un autre exemple avec les ateliers de Damanour dans le nord de l'Égypte, pas très loin de Boutot, où là encore une partie de la vente s'effectue, voyez, au bord de la route. Donc c'est clair que pour l'Antiquité, on ne peut pas imaginer des boutiques comme, ça devait être des espaces de ce type-là qui devaient exister. Le transport, rapidement, voilà le transport aujourd'hui. On va traverser le Nil, par exemple, en Moyenne-Égypte. La carriole qui est à droite, eh bien, elle contient des céramiques. Elle est transportée elle va prendre place sur un bac qui va traverser le Nil. Donc, utilisation de charrues, de carrioles. Et on va aussi utiliser, évidemment, moyen encore traditionnel, l'âne, hein, qui est dans l'Antiquité le moyen de transport. Avant que le chameau le dromadaire soit introduit et là soit vraiment utilisé de manière systématique, et encore le chameau encore jusqu'à nos jours. Et puis je voudrais finir sur ce que l'on peut appeler les évolutions récentes de ces ateliers traditionnels. Donc vous avez l'atelier traditionnel de Fustat que je vous ai montré, et puis s'est développé un quartier que l'on appelle le New Fustat, où les ateliers vont toujours produire de la céramique, mais vont accueillir aussi, dans le périmètre, des productions, des fabrications d'objets en plâtre à partir de chaux, qui sont souvent des objets de type décoratif pour les jardins, Et puis voilà, donc c'est ces reconversions qui sont toujours importantes et que l'on peut aussi d'ailleurs observer dans l'Antiquité, hein, parce qu'on peut imaginer que, si je reprends encore l'exemple de Buteau, on a produit à un moment donné de la fine rouge et un petit peu plus tard on s'est reconverti dans de la commune. Voilà, il y a aussi cette évolution toujours possible et là évidemment ici c'est un exemple tout à fait flagrant. Ou donc à côté des ateliers de potier, eh bien on a des ateliers de fabrication d'objets en plâtre, avec d'un côté Moubarak, que vous avez là une tête gigantesque de Moubarak, et puis vous avez ici, outre des éléments décoratifs qu'on met dans les jardins, vous avez des vierges qui sont sur le côté droit de la photo. Voilà donc. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire ces pistes de recherche qu'il faut creuser, et en sachant et en rappelant que les études qui ont été, que je vous ai, j'ai évoquées, donc les études de Philippe Brissot, de Nessim Hennein, de Thiriot, etc., à propos des ateliers de Foussat, ils nous ont étudié, si vous voulez, de manière un peu monolithique, enfin, c'est-à-dire ils ont étudié l'atelier lui-même, mais ce qui manque peut-être à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on va essayer peut-être de faire dans de nouveaux programmes, c'est d'avoir une étude un peu plus systématique justement à l'échelle de l'Égypte, et puis d'avancer davantage ces questionnements que je vous ai montrés de manière très informelle, je dirais, parce que c'est pas un dossier, j'ai puisé des cas, des exemples, des réflexions très très générales encore, mais qu'il faudrait poursuivre. Et donc, vous avez en bas Maurice Picon qui nous fait un petit clin d'œil là, et auquel on lui doit beaucoup pour l'avancement de toutes ses recherches en Égypte. Voilà.